Bien chers amis, ces jours-ci, la chrétienté dans son ensemble vient de se pencher sur les scènes du calvaire produites il y a environ 2000 ans. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais cessé depuis lors d'être le sujet de conversation à travers le monde. Son calvaire a étonné plusieurs. D'autres y trouvent une occasion de réconfort. D'autres encore une raison de salut. D'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité, attire à lui tout homme. Et c'est pourquoi, semaine dernière, nous tous étions en train de penser aux scènes produites au calvaire il y a environ 2000 ans, et dont le Seigneur Jésus-Christ était l'acteur principal. Évidemment, quand je dis acteur, le mot ne convient pas. Toutefois, vous qui m'écoutez, vous comprenez ce que je veux exprimer. Je dirais plutôt le sujet principal, ou bien l'unique sujet, parce que lui seul a été crucifié pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Toutefois, nous devons remarquer que la mort de Jésus-Christ pour apporter la paix à tous les hommes n'a pas encore atteint ce but, car depuis lors et même bien avant, le monde a toujours connu de fortes crises de paix, la guerre, les calamités, les famines, les épidémies de toutes sortes ont toujours tracassé l'esprit des hommes. Aujourd'hui encore, nous pouvons constater que le monde, en dépit de grands efforts réalisés par de grands hommes et femmes de bonne volonté, menace de s'effondrer. Et alors, quand il s'effondre autour de soi, que doit-on faire? Tel est le sujet sur lequel nous allons nous pencher. Mais juste avant, écoutons. Inique est sur le trône de Juda. La Bible dit de lui, dans 1 Chroniques 28, verset 1 à 4, Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Quand le monde s'effondre autour de soi, que peut-il arriver? Et en quelle occasion cela peut survenir? Akaz, roi de Juda, homme inique, homme vain, personnage d'abomination, mène son royaume selon les voies du mal. Cependant, le Seigneur l'Éternel veille, parce que le peuple que dirige Akaz est bien celui de Dieu. Il est vrai que ce peuple lui aussi est en crise identitaire. Cependant, l'Éternel n'est pas encore disposé à lui laisser perdre son identité. C'est pourquoi, pour réveiller le roi comme de son sommeil, le Seigneur a permis que le roi de Syrie se souleva contre lui. C'est ainsi, nous lisons dans 2 Chroniques 28, versets 5 et 6, l'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le bâtirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pekak, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Bien, chers amis, par ces deux versets que nous venons de lire, nous voyons que le monde juif s'effondrait autour de Akaz. En effet, l'Éternel le livra entre les mains du roi de Syrie, donc Dieu est contre lui. Les Syriens le bâtirent et lui firent un grand nombre de prisonniers, ses voisins sont contre lui. Tes quatre fils de Rebania, tu as en un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants. Encore d'autres voisins contre lui. Et c'est le peuple qui fait les frais. Des morts, des blessés, des prisonniers, des captifs. Et tout cela parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Quand le monde s'effondre autour de soi. Le royaume du Nord et celui de la Syrie se liguèrent contre le petit pays de Juda au sud. Cela se produisit au moment où Juda se trouvait affaibli par les attaques des Édomites et des Philistins. Par le passé, Juda s'était battu aux côtés d'Israël, mais une alliance entre ce dernier et la Syrie constituait un péril accablant. Il semble qu'Israël et la Syrie voulaient contraindre Juda à participer à une coalition contre le très puissant Tiglath-Pileser III, roi d'Assyrie, qui continuait de les menacer. Son empire était en pleine expansion. Israël et la Syrie avaient mis de côté leur lutte ancestrale devant un aussi grand danger. S'ils pouvaient conquérir Juda et y installer un dirigeant sous leur autorité, ils utiliseraient les ressources et la main-d'œuvre du pays. Devant l'ampleur du danger, Akaz devait tout simplement penser au psaume 121 de David que l'on chantait constamment dans le temple de Jérusalem, ou plutôt que l'on chantait bien souvent dans le temple de Jérusalem. Que nous dit ce beau psaume? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Cependant, au lieu de penser à une telle prière, Akaz a pensé chercher ailleurs du secours, tel que nous le trouvons dans 2 Rois 16, versets 7 à 9, où il est dit, Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, Je suis ton serviteur et ton fils. Montre et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rit. Bien-aimé, comme l'homme a perdu la raison, il est vraiment un insensé. D'ailleurs, il donne à l'homme son semblable, ce qui revient au Tout-Puissant. Remarquez, Akaz fit dire au roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser, « Je suis ton serviteur et ton fils. » Et pourquoi ne l'aurait-il pas dit au Dieu de ses pères? En effet, il devrait être un zélé serviteur du Dieu de ses pères, de l'Éternel, et alors il serait un fils de Dieu convaincu et convaincant. En outre, les présents qu'il a envoyés au roi d'Assyrie pourraient être faits à l'Éternel en offrande d'action de grâce. Cependant, nous remarquons aussi quelque chose. Akaz a fait de Tiglath-Pileser un personnage plus grand que l'Éternel, puisqu'il a pris tout l'or qui se trouvait dans le trésor de la maison de Dieu pour l'envoyer au roi Tiglath-Pileser. Quel malheur! Quand l'homme ne se soucie pas de Dieu, il se soucie de l'homme son semblable, dans le mauvais terme, évidemment, dans le mauvais sens, et même il a tendance à élever l'homme au-dessus de Dieu et à mettre l'homme à la place de Dieu en lui conférant les honneurs qui ne reviennent qu'à Dieu. Et là, le texte nous dit, au lieu d'admettre que Dieu était le seul ami capable de sauver lui et son pays, Akab essaya de faire alliance avec Tiglath-Pileser, l'ennemi de ses ennemis. Le roi d'Assyrie accepta volontiers sa demande contre la Syrie et Israël. Remarquez, nous avons ici Assyrie et Syrie. Syrie est au sud, Assyrie est au nord. Non seulement Tiglath-Pileser reçut un grand présent d'Akal, mais il eut une bonne excuse pour s'emparer de la Syrie, ce qu'il fit promptement. La puissance de l'alliance entre la Syrie et Israël était brisée. À court terme, il sembla qu'Akaz avait sauvé Juda. Bien-aimés, quand en lisant, nous découvrons qui était Akaz, nous comprenons pourquoi il a réagi au danger comme il l'a fait. Il servait des faux dieux, il passait ses enfants par le feu, il adorait les armées des cieux. Par conséquent, nous comprenons que ce n'était pas difficile pour lui de mettre un homme au-dessus de l'Éternel et de ne chercher du secours qu'en l'homme son semblable. Cependant, notre Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Même lorsque nous le méprisions, il nous cherche encore. Oui, il nous cherche, car c'est un Père rempli de clémence. C'est vrai, Akaz ne l'a pas qu'à se consulter. C'est vrai, Akaz n'a pas cherché du secours en lui. Mais lui-même, il va proposer le secours à Akaz, tel que nous allons le voir dans Ésaïe chapitre 7. Tandis qu'on vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut agité, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, roi de Shéa, toi et Shéa, Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Ritzin et de la Syrie, et du fils de Remalia, de ce que Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est à la tête de la Syrie et Rezin est à la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Bien chers amis, tandis qu'Akaz réfléchissait à différentes options politiques pour affronter la menace que constituaient Israël et la Syrie, Dieu avait connaissance des choses qu'il ignorait. D'une part, c'était le Seigneur qui avait permis tous ces ennuis, dans le but de le corriger et de l'amener à retrouver ses esprits. En outre, même s'il semblait logique et séduisant, d'un point de vue humain, de faire appel à Tiglath-Pileser, Dieu savait que cela mettrait le royaume de la ville de Juda sous contrôle étranger, ce dont il ne se relèverait jamais. L'enjeu était de taille. Aussi, le Seigneur envoya-t-il Isaïe intercepter le roi qui, apparemment, inspectait la réserve d'eau de Jérusalem en prévision d'un siège pour le dissuader de contacter le roi d'Assyrie. Cependant, nous pouvons, nous personnellement, faire une question. Pourquoi le Seigneur dit-il à Esaïe de prendre avec lui son fils Shéhéjachub, selon que nous le lisons dans Esaïe 7, verset 3. Akaz sera surpris quand Esaïe le saluera et lui présentera son fils appelé, un reste reviendra. Car c'est la signification de Shéhéjachub. Un reste de quoi reviendra d'où? Parce que le père du garçon était un prophète. Ce nom résonnait comme un message menaçant de la part de Dieu au sujet de personnes partant en captivité. Ou s'agissait-il de retourner vers Dieu dans le sens de se repentir? Le message de Dieu à Akaz était le suivant. Il a le sens que tu lui donnes. Détourne-toi de tes péchés ou pars en captivité. Un reste en reviendra. La décision t'appartient. Oui, la décision t'appartient. Faisons une autre question. En quoi le message de Dieu était-il en rapport avec la situation du roi? Ésaïe 7, versets 4 à 9, le dit bien, comme nous venons de le lire. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant tes deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rezin et de la Syrie, et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, et de ce que Ephraïm et les fils de Remalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Bien-aimés, l'homme souvent prononce des paroles fortes. Et Dieu se complaît à les écouter, non pas parce qu'il y prend vraiment plaisir, mais parce qu'il a de la miséricorde pour le genre humain fragile, frêle même, n'ayant aucune puissance propre, mais qui souvent pense pouvoir défier le Dieu du ciel. Et celui-ci, qui ne veut jamais employer de la force contre la faiblesse, ne le fait pas. Au contraire, au lieu de nous punir, il cherche plutôt à nous sauver. C'est pourquoi la menace que constituaient la Syrie et Israël passerait et Juda serait épargné. Des puissances qui semblaient à Akaz semblable à des gigantesques volcans en éruption, n'était aux yeux de Dieu que deux bouts de pigeon fumant. Il n'était pas nécessaire qu'Akkad demande l'aide de la Syrie. Mais pour prendre la bonne décision, Akkad devait faire confiance au Seigneur et à ses promesses. Il lui fallait croire s'il voulait tenir. Les mots croire et tenir proviennent de la même racine hébraïque, d'où sont également issus les termes vérité, ce qui est fiable, et amen, confirmation de ce qui est vrai et fidèle. Pour être rassuré, Akkad ne devait pas douter. Pour être crédible, il lui fallait faire confiance. Si vous ne croyez pas, le Seigneur, vous ne subsisterez pas. À la vérité, il s'agissait d'Akkad. Mais pour nous aussi, c'est la même chose. Car si nous ne croyons pas, nous ne subsisterons pas non plus. Nous savons que le jugement de Dieu vient bientôt. Seuls seront sauvés ceux-là qui ont se sont saisis de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et nous savons que la foi vient de ce que nous, de ce qu'on entend. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, puisqu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que celui-ci existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. La foi, condition numéro un pour vivre devant Dieu, laquelle condition nous fait saisir la deuxième, qui est la grâce du Seigneur. Et celle-ci étant saisie, elle nous amène à la troisième condition, qui est l'obéissance au commandement de Dieu. Foi, grâce, obéissance. Et le quatrième, tout naturellement, persévérance. Tel est le salut. La foi, la grâce, l'obéissance, la persévérance. Vous qui m'écoutez, vous dites avoir la foi, c'est très bien, mais avez-vous l'obéissance? Êtes-vous effectivement sauvé par grâce? Car celui qui croit et qui a trouvé grâce devant Dieu cesse de désobéir. Il marche dans la pratique de la parole. Et non seulement il marche dans la pratique de la parole, pas pour un temps insuffisant, mais pendant toute sa vie ou bien pour toute son existence. C'est pourquoi nous disons, il faut aussi de la persévérance. Maintenant, le roi Esaïe va proposer au roi Akkad, ou plutôt le prophète Esaïe va proposer au roi Akkad une chose réellement belle. Esaïe 7, verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akkad et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Ici, la proposition est vraiment alléchante. Oui, elle est alléchante. Akkad sera surpris. Oui, il sera surpris. Cependant, le Seigneur sait ce qu'il fait. Demande un signe en sa faveur à l'Éternel, ton Dieu. Oh! Le Seigneur, qui n'a pas voulu se départir de sa déité en faveur de Akkad, il tenait à demeurer son Dieu, le Dieu d'Akkad. Demande, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Malheureusement, Akkad était tellement impie qu'il n'a pas pu saisir le sens profond de cette proposition, au point qu'il a répondu, je ne demande rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Je ne demande rien, je ne tenterai pas l'Éternel. C'est vrai, il ne tentera pas l'Éternel. Mais, remarquons, il n'a pas répondu à l'invitation, à la foi faite par Isaïe. Aussi, Dieu lui offre-t-il miséricordieusement une deuxième chance en lui proposant de demander un signe issu des profondeurs du Sheol ou bien des hauteurs de la haut, c'est l'une des plus magnifiques invitations à la foi jamais offerte à un être humain. Contrairement au jeu de l'autre, Dieu n'inscrit pas sa mission en petit caractère. Il n'a même pas limité son offre à la moitié de son royaume, comme le faisait des rois. Lorsqu'il voulait se montrer particulièrement chaud, il était prêt à vider le ciel, à vider ciel et terre pour un mauvais roi. Si seulement celui-ci voulait, voir Akaz aurait pu demander comme signe une montagne d'or ou des soldats aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Malheureusement, il ne l'a pas fait. À première vue, la réponse d'Akaz semblait pieuse et respectueuse. Il ne mettrait pas Dieu à l'épreuve comme l'avaient fait les Israélites des siècles auparavant, pendant leur errance dans le désert. Mais leur situation était différente, car c'était Dieu qui invitait le roi à le mettre à l'épreuve. Que ce dernier accepte une offre aussi généreuse lui aurait fait plaisir et sa patience n'aurait pas été éprouvée. Mais Akaz ne désirait même pas que Dieu l'aide à croire. Il avait cadenassé la porte de son cœur pour en exclure la foi. Amis qui m'écoutez, ne serait-il pas notre agissement bien souvent à l'endroit de Dieu? Quand il nous demande de croire afin d'obtenir grâce et qu'ainsi la grâce demeure par notre obéissance et notre persévérance, mais au lieu d'agir ainsi, nous préférons continuer à demeurer dans l'iniquité. Cependant, Ésaïe 7, verset 13 est clair. Ésaïe chapitre 7, verset 13 est clair. Ou plutôt, à partir du verset, oui, c'est ça. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont il fait les deux rois sera abandonné. Est-ce trop peu que de lasser la patience des hommes, que de lasser encore celle de Dieu? Ici, Ésaïe indique qu'en refusant de mettre Dieu à l'épreuve, en voulant éviter ouvertement de lasser sa patience, c'était en réalité exactement ce que le roi faisait. Mais l'appel le plus troublant de ce verset est le fait qu'ici, Ésaïe dit « Mon Dieu ». Contrairement au verset 11, où le prophète invite le roi à demander un signe au Seigneur, « Ton Dieu ». En rejetant l'offre divine, Akaz refusait au Seigneur d'être son Dieu. Ce dernier était le Dieu d'Ésaïe et non celui du roi. Oui, c'est cela. Notre Dieu est au ciel, il domine sur l'univers. Cependant, de combien de nous est-il Dieu? De combien de nous est-il Dieu? Il est mon Dieu. Si je crois en lui, j'obéis à sa parole et je persévère dans cette obéissance. Dans le cas contraire, il n'est pas mon Dieu, car celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et nous savons que la foi sans les œuvres est une foi morte. Cependant, quelles sont les œuvres de la foi? le décalogue. Avoir Dieu pour seul Dieu. Ne pas se faire des images taillées. Respecter le nom de Dieu. Sanctifier le sabbat. Honorer ses supérieurs. Respecter la vie d'autrui. Respecter le bien d'autrui. Donner des paroles d'honneur. Ne pas convoiter. Et vivre en un mot selon la parole du Seigneur. L'offre d'un signe issu des profondeurs du Sheol ou bien des hauteurs de là-haut a laissé Akkad indifférent. Aussi, quand Dieu a déclaré que lui-même se manifesterait par un signe, nous nous attendons à ce que celui-ci soit d'une dimension à couper le souffle, dimension que seule l'imagination divine puisse concevoir. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de nous, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Oui, et les choses qui nous réservent, l'oreille n'en a jamais entendu parler, l'esprit ne l'a jamais conçu. Et pourtant cela vient. Oui, cela vient. Le signe que le Seigneur propose est un fils. Mais comment une jeune femme qui met au monde un enfant et l'appelle Emmanuel pourrait-elle représenter un signe de dimension biblique? Qui est la femme? Et qui est son enfant? Il y a des suggestions. Nous en retenons deux. Parce qu'en hébreu, le terme jeune fille se réfère à une jeune femme en âge de se marier. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une femme mariée vivant à Jérusalem. Peut-être la femme d'Ésaïe. En effet, Ésaïe 8, verset 3 mentionne effectivement la naissance d'un fils d'Ésaïe, de la prophétesse, sa femme, dont les messages prophétiques étaient au moins exprimés par ses enfants. Quoi qu'il en soit, ce fils a reçu le nom de Maher, Shalal, Ashbaz, et non d'Emmanuel. Néanmoins, le signe que représentait des garçons sont semblables, car avant qu'ils aient atteint l'âge de choisir entre le bien et le mal, la Syrie et le nord d'Israël seraient dévastés. En outre, nous savons que une naissance naturelle d'une femme non mariée, mais en âge de l'être, donnerait un enfant illégitime, issu d'une intimité illégitime. Pourquoi Dieu ferait-il mention d'un tel enfant comme d'un signe pour ne pas inspirer la foi? Jamais, car nous autres ici, nous tous savons que ou bien on est enfant légitime, ou bien on est enfant illégitime ou naturel. L'enfant naturel est le produit du péché de deux êtres. L'enfant légitime est le produit de l'obéissance de deux êtres. Cependant, vous me direz, pourquoi Dieu n'a-t-il pas et réserver son salut uniquement au fils légitime et le refuser au fils naturel? Voici, l'enfant naturel n'a pas demandé à l'être. Il n'est pas responsable du péché de ses parents. C'est pourquoi lui aussi, en tant qu'être humain, bénéficie du salut de Dieu en Jésus-Christ, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, l'enfant naturel qui croit en Dieu et obéit à ses commandements persévère dans la pratique de la justice vers la face de son Seigneur. Mais l'enfant légitime qui ne croit pas comme Akkad et qui ne respecte pas la parole comme encore Akkad, ira dans la géhenne et ne verra jamais la face du Seigneur. Parce que Emmanuel est un personnage quelque peu mystérieux et que ce nom, communément traduit par Dieu avec nous, atteste la présence divine, il pourrait être ce fils spécial prophétisé dans Ésaïe 9 et 11. Dans ce cas, la description exaltée qui est faite de lui comme d'un être divin surpasse tout ce qu'on pourrait attribuer même au bon roi Ézéchias. En tout cas, il n'existe pas d'assurance ni de réconfort plus grand que de savoir Dieu est avec nous. Dieu ne promet pas que son peuple n'endurera ni épreuve ni souffrance, mais il promet d'être avec lui. Le psalmiste dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Dieu dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas. Ésaïe 43, verset 2. Alors, où se trouve le Seigneur quand les Babyloniens ont jeté les trois hébreux dans le feu? Avec, évidemment. Et où était le Seigneur lors du temps de détresse de Jacob, quand il a lutté jusqu'à l'aube, dans ses bras, aussi près que possible? Même quand le Seigneur n'apparaît pas sous forme physique sur la terre, il vit avec son peuple les expériences que celui-ci traverse. Où était-il quand la population a condamné Étienne? Debout à la droite de Dieu. Or, quand Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Pourquoi se tenait-il debout quand Étienne était en difficulté, sur le point d'être lapidé, d'être mis à mort? Comme il l'a fait remarquer, Jésus n'allait pas accepter cela en restant assis. Non, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la détresse comme dans la sérénité. Cependant, vous direz, Dieu est là, pourquoi le malheur? Si Dieu est là, pourquoi la détresse? Rappelez-vous que Jésus est passé par la détresse. Il a subi la croix afin de nous sauver. Par conséquent, nous aussi, nous l'aimons, devons nous charger chaque jour de notre croix et de le suivre, oui. Et le Seigneur ne se propose d'écarter la croix à personne en ce bas monde, mais plutôt, il nous donne la force de la porter jusqu'au bout afin que nous participions à sa résurrection et à sa gloire. Question. Quand le monde s'effondre autour de nous, que devons-nous faire? Quand le monde s'effondre autour de nous, nous devons en premier lieu nous poser une question. Sommes-nous responsables de la situation ambiante? Si oui, comment? Dans ce cas, il faut un examen de conscience. Un examen de conscience remontant au loin, dans toutes les nuances, avec tous les scrupules qu'il faut. Il faut être juge de soi, mais un juge vraiment impartial. Et lorsqu'on a trouvé la réponse, si le monde s'effondre à cause de nous, eh bien, changeons de voie, changeons de direction, marchons autrement que nous avions marché dans le temps passé, ou recherchons l'Éternel pour nous aider, car lui, il ne se lasse jamais de corriger les fautes de ses enfants. Même lorsque c'est nous qui causons l'effondrement, Dieu nous pardonne si nous lui demandons pardon et entreprend la restauration. Amis, par nos péchés, nous avons causé notre propre effondrement. Par conséquent, le cercueil nous attend et bientôt la corruption. Cependant, si nous abandonnons le mal et délaissons le péché sous toutes ses formes, alors, même lorsque nous mourions, nous participerions à la résurrection. Quand même, selon qu'il est écrit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ainsi, une glorieuse résurrection nous attend au jour du retour du Seigneur Jésus. Lui, il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Cependant, si nous ne croyons pas, nous périssons.